VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le Kenya est entré ce mardi dans la dernière semaine d'une campagne électorale tendue en vue des élections générales du 8 août et notamment d'une présidentielle qui s'annonce serrée entre le sortant Uhuru Kenyatta et son rival Raila Odinga. Cette réédition du duel de 2013 a donné lieu à une campagne acrimonieuse, l'opposition accusant le camp de M. Kenyatta de préparer des fraudes électorales qui a installé dans le pays un climat d'appréhension et alimente les craintes de violences électorales. Ces élections par lesquelles les Kenyans vont élire leur président, gouverneur, député, sénateur, élus locaux et représentants des femmes à l'Assemblée interviennent 10 ans après celle de 2007 où l'opposition, déjà emmenée par Raila Odinga, avait crié à la fraude à l'annonce de la réélection du président Mwai Kibaki. Par ailleurs, les États-Unis, le Royaume-Uni et les deux ONG internationales demandent une enquête sur le meurtre d'un haut responsable de la commission électorale au Kenya, Eric Manirakiza.
C'est dans une déclaration conjointe que les deux pays ont exprimé leur grave préoccupation sur l'assassinat de Chris Msando, chargé de superviser le système électronique d'identification des électeurs et de comptage des voix. Se félicitant de l'engagement de Nairobi à mener l'enquête, les États-Unis et le Royaume-Uni ont promis leur aide. Même son de cloche de Human Rights Watch et Amnesty International, les deux organisations exigent une enquête d'urgence et précisent que ce meurtre devrait amener les autorités à renforcer la sécurité du personnel de la commission électorale. Chris Msando avait disparu le week-end et son corps a été retrouvé samedi par la police. Il a fallu 48 heures pour l'identifier. Monsieur Msando était supposé tester hier le système électronique de vote. Le 8 août, les Kenyans vont choisir leur président dans un scrutin qui risque d'être très serré entre le président sortant Uhuru Kenyatta et son rival Raila Odinga. Les gouverneurs, députés, sénateurs, élus locaux et représentantes des femmes au Parlement seront choisis le même jour.
Plusieurs arrestations à Goma suite à la manifestation du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, organisé sur toute l'étendue de la RDC pour exiger à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser des élections fin 2017 comme prévu dans l'accord signé le 31 décembre 2016 entre le parti au pouvoir avec le rassemblement des partis de l'opposition. Presque toutes les activités ont été paralysées lundi à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, commerce, banque, tout est resté fermé sauf le transport en commun. Charlie Kassereka.
La manifestation prévue pour ce lundi par le mouvement citoyen Lucha a été étouffée à certains endroits de la ville. Très tôt le matin, on a constaté un fort dispositif sécuritaire dans presque tous les coins chauds de la ville de Goma. Les groupuscules des manifestants calicots à la main ont tout simplement été dispersés par les gaz lacrymogènes de la police congolaise qui précise que la manifestation n'a pas été autorisée par les autorités politiques. Dans les premières heures le matin, une vingtaine de jeunes ont été arrêtés dans les quartiers ouest de la ville avant qu'un autre groupe traverse les quartiers Majengo au nord de Goma pour se diriger vers les bureaux de la CENI au centre-ville. Luc Nkulula est membre de la Lucha.
Vous voyez, c'est la jeunesse de Goma qui est en train de se mobiliser là. Ce que nous demandons à la CENI, c'est de nous faire un calendrier électoral et que nous ayons les élections en 2017. Et toutes les associations de jeunes de Goma, et là c'est la troisième équipe qui veut maintenant entrer à l'offensive sur terrain. Nous sommes encore très nombreux, donc on ne va pas s'arrêter. On dit à la police qu'on ne va pas se fatiguer.
La détermination, mais surtout l'espoir pour les élections cette année, ils y croient toujours.
Nous y croyons, parce que ce pays appartient à nous tous.
Les élections.
Ce pays n'appartient pas à ces cliques. Nous demandons les élections.
Ici, devant les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante, ils brandissent les calicots portant les messages. Antonin Deschamps avale leur interpellation par la police qui les a conduits vers les cachots à la mairie de Goma. Le mouvement citoyen pro-démocratie Lucha, dans son communiqué ce soir, fait savoir qu'environ une cinquantaine de leurs camarades ont été interpellés ici à Goma. D'autres arrestations ont été aussi signalées dans la partie nord de la province du Nord Kivu, précisément à Beni et à Butembo. Signalons que les activités commerciales sont restées paralysées presque toute la journée, avec des marchés et des banques fermées, alors que la circulation des véhicules et les transports en commun étaient normales toute la journée dans la ville de Goma. Charlie Kassereka depuis Goma pour VOA Afrique.
4 personnes ont été tuées, un village a été brûlé dans des combats qui ont ravivé le vieux conflit entre pygmées et bantous dimanche en République démocratique du Congo. Ces combats ont causé, selon l'AFP, la mort de 3 bantous et un pygmée. 7 personnes ont été grièvement blessées, notamment par des flèches, et plus de 2500 déplacés ont dû fuir leurs habitations. Les tensions entre les deux communautés sont antérieures à l'indépendance de la RDC. Depuis décembre 2013, le nord du Katanga est le théâtre de nombreux accrochages meurtriers entre des bantous Luba et pygmées Twa. Le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a envisagé hier de demander des éléments additionnels pour la force onusienne en Centrafrique à l'issue d'une visite de 2 jours à Bangui. Il y a un sentiment de très grande pression sur les ressources de la force, a constaté le secrétaire général adjoint. 9 casques bleus ont été tués depuis mai dans la région de Bangassou, à la frontière avec la République démocratique du Congo. M. Lacroix a par ailleurs annoncé que les Nations Unies étaient en contact avec la Zambie et la Tanzanie pour remplacer les quelques 600 soldats du contingent congolais. Ils ont été priés de rentrer à Brazzaville en juin à la suite d'un rapport des Nations Unies accusant certains éléments d'abus sexuels et d'indiscipline. La Chine a inauguré aujourd'hui à Djibouti sa première base militaire à l'étranger, aux portes de la mer Rouge, a annoncé l'agence Chine Nouvelle. L'ouverture de la base a été marquée par une cérémonie en présence du numéro 2 de la marine chinoise, Tiang Zong, et du ministre de la Défense de Djibouti. La marine chinoise est présente depuis fin 2008 au large de la Somalie et dans le golfe d'Aden, dans le cadre des efforts internationaux pour combattre la piraterie dans cette région. Mais cette base logistique est la première du genre pour Pékin. 2 journalistes ivoiriens ont été interpellés et détenus lundi à Abidjan pour divulgation de fausses informations après avoir écrit que les comptes du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, étaient gelés, a annoncé leur syndicat. Dan Opeli, directeur de publication de Le Quotidien, un journal d'opposition, et Yves Cuyo, journaliste, ont été gardés pour être présentés ce mardi au procureur de la République, a expliqué à l'AFP Guillaume Bateau, secrétaire général du Syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. 2 des chefs de l'opposition ont été arrêtés aujourd'hui au Venezuela sous le coup de sanctions des États-Unis après l'élection dans le sang d'une toute-puissante assemblée constituante voulue par le président socialiste Nicolas Maduro. À la veille de l'installation prévue de cette constituante, Leopoldo López, âgé de 46 ans, fondateur du parti Voluntad Popular, Volonté Populaire, droite, et le maire de Caracas, Antonio Ledesma, âgé de 62 ans, ont été arrêtés, selon leur famille, en pleine nuit chez eux, où ils étaient en résidence surveillée, après avoir été déjà emprisonnés jusqu'à presque 3 ans et demi pour M. López. Tous deux avaient appelé à ne pas participer à l'élection dimanche dernier de la Constituante, un scrutin marqué par des violences qui ont fait 10 morts.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'ex-première ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra, qui risque d'être condamnée à la fin du mois d'août à 10 ans de prison, s'est posée aujourd'hui lors de son procès en victime d'un jeu politique mené par la junte militaire au pouvoir. « Je suis la victime d'un jeu politique subtil », a-t-elle déclaré lors de sa dernière prise de parole de près d'une heure, tranchant avec la prudence adoptée pendant les 18 mois d'audience. Des généraux ultra-royalistes sont au pouvoir en Thaïlande depuis le coup d'État de 2014 qui a renversé le gouvernement de Yingluck. Ils sont accusés de vouloir nettoyer la scène politique, notamment de l'influence de la famille Shinawatra, avant de se risquer à toute annonce d'élection. L'ex-premier ministre est accusé de négligence dans la mise en place d'un programme de subvention du riz sous son mandat. Et pour terminer, le Parlement brésilien doit trancher demain mercredi sur le sort de Michel Temer, premier président en exercice formellement mis en accusation pour corruption, qui continue à s'accrocher au pouvoir. Contre vents et marées, le chef de l'État tente d'éviter à tout prix que 2/3 des députés, soit 342 voix sur 513, décident de renvoyer son cas vers la Cour suprême qui peut l'inculper et l'écarter donc du pouvoir pour 6 mois. Si ses opposants ne parviennent pas à rassembler cette majorité des 2/3, l'affaire sera classée et M. Temer obtiendra un nouveau repris après avoir été blanchi de justesse par la justice électorale au début du mois de juin. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.